Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Lorsqu'on n'a pas forcément choisi son parcours de vie, mais finalement, on se l'approprie, ça, c'est ce qu'on va voir avec ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mejda Sebani, bonjour.
Bonjour, Lella Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lella Mejda.
Très, très bien. Merci beaucoup. Je vais très bien et ravie d'être parmi vous, d'être parmi les femmes invitées à votre podcast.
Alors, quand on regarde votre parcours, on voit une femme. Moi, le mot qui sort, et je ne le calcule pas, c'est amoureuse de la santé.
Exactement, exactement. Amoureuse de la santé, amoureuse du bien-être, amoureuse de la femme qui est épanouie. Ça résume un peu... Qui suis-je en quelque sorte?
Alors vous êtes professeur de médecine, YEC.
Exactement.
Vous êtes à la tête d'un département de santé publique.
Exact.
Exactement. Vous êtes aussi coach professionnel.
Oui.
Alors j'ai toujours été entre autres. Alors Zidini, je ne m'en refais pas.
Alors premièrement, on a une maman.
Oui.
Donc ça c'est la première casquette, une maman de deux filles. Et à côté de tout ça, j'ai un parcours professionnel qui est marqué par la médecine, tout ce que tu as dit, Lella Yasmine.
Oui.
Et je peux ajouter quelques petits détails. Le parcours, c'est un amour du dessin, un amour de tout ce qui est créatif. Et puis la créativité, la santé. Et donc, je mets en quelque sorte les casquettes que tu as citées.
Ouais. J'ai l'impression que
l'éducation pour la santé et le coaching pour la santé.
Alors j'ai l'impression justement que c'est ce côté créatif qui t'a donné l'autorisation intérieure d'aller aussi vers le coaching.
Oui, en quelque sorte, c'est à l'intérieur en fait où c'est intrigué dans. Dans la santé, le coaching, c'est un aspect qui est là. Sauf qu'on ne met pas forcément, en tant que médecin, le terme coaching quand on parle de l'accompagnement de notre population ou de nos patients. On ne parle pas de coaching. Mais certainement, il y a le côté créatif qui m'a mené et m'a poussé à aller creuser d'autres domaines et voir un peu les intersections qui peuvent se faire naturellement avec notre métier de médecin et de soignant.
Mmh. Alors, toi, tu es professeur de médecine. Une spécialité en particulier?
Oui, c'est la santé publique. C'est une spécialité qui est plus ou moins méconnue. À l'international, c'est public health, global health. Au Maroc, on peut retrouver plusieurs dénominations comme la médecine communautaire, l'épidémiologie clinique. Mais en fait, c'est un champ qui est complémentaire de la médecine, puisque la médecine, elle s'attarde beaucoup plus sur la lutte contre les maladies. Le médecin et les soignants avant tout d'un malade, alors que la santé publique, il voit la population malade et non malade.
D'accord.
Donc on a un peu la santé au sens large, et non pas uniquement la maladie.
Avec la sensibilisation aussi.
Exactement,
ouais.
Donc il y a les approches de prévention, sensibilisation, de promotion de la santé. Donc tout ce qui précède la maladie en fait.
Mmh.
Et là on retrouve un peu la vision large de la santé et l'intérêt à la population générale, avec bien évidemment tout ce qui est politique de santé, mais aussi tout ce qui est éducation pour la santé, sensibilisation, acquisition des aptitudes favorables à la santé. Et donc c'est complémentaire, mais encore une fois c'est méconnu. Parce que il y a des confusions qui se font avec le domaine de la stratégie ou de la politique publique. Et des fois, on nous considère comme des administratifs de la santé, alors que c'est pas le cas. On peut être très présent dans les hôpitaux auprès de patients et à notre place, comme soignant et comme médecin.
Alors, justement, Lella Mejda. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à cette spécialité en particulier? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre soin des gens au sens large, justement, de ne pas être que dans le curatif, mais d'être aussi et surtout dans la sensibilisation?
C'est une question qui va me pousser à parler un peu de mon histoire,
Ah ben, ça
comment le
j'adore.
choix de la
Ouais,
médecine,
ouais.
oui, comment le choix de la médecine a été fait au départ. Donc en
D'accord.
fait, moi, au départ, parmi les choix de carrière que je voulais entamer, c'était en fait la gestion.
OK.
J'étais loin
De la
de
médecine.
désirer la médecine, oui. C'était la gestion, et d'ailleurs, je voulais être dans tout ce qui est gestion de projet, etc. Et à l'époque, il y avait ma sœur, ma grande sœur, que je remercie infiniment. C'était celle qui m'a précédée en quelque sorte dans le parcours. Et j'ai vu un peu au début que la médecine, ce n'est pas vraiment ce que je souhaiterais faire. Par contre, mon père, l'Ayahmou Fadnarada, comme tous les pères conservateurs, il voulait absolument que je fasse médecine. Donc c'était un
D'accord.
choix paternel.
OK.
C'était un choix paternel. Et donc en rentrant à la faculté de médecine, au début j'ai entamé mes études à Rabat. Je me suis dit il faut que je retrouve un peu mon plaisir dans ce parcours que j'ai pas forcément choisi.
Choisis, ouais.
Donc en avançant dans les études, je voyais beaucoup de pathologies. Toutes les études initiales, ils sont aux alentours de la pathologie et je me disais où est la santé dans tout ça?
Où est
Finalement,
ah, ça c'est bien, Afti, c'est une belle nuance. C'est la pathologie, mais c'est pas la santé en fait, parce que la santé
oui,
c'est
c'est
quand on
pas
va
la
bien.
santé. Exactement. Je me disais qu'il faut qu'on soit en bonne santé finalement.
Hein.
Et là, oui, c'est traiter le malade, une personne qui est malade, mais comment faire pour préserver la santé? Alors, j'ai essayé de chercher, à l'époque, je méconnaissais moi aussi l'existence d'une discipline à part entière. Il y avait des cours en médecine sociale, mais ce n'est pas vraiment de la santé publique, c'était beaucoup plus sur la santé des voyageurs, etc. Mais ça commençait à me donner un peu goût. Et sincèrement, m'intéresser à la discipline proprement dite, c'était après des problèmes de santé personnellement
D'accord.
que j'ai pu, alhamdoulilah, j'ai pu avoir en parcours comme un petit cadeau. C'était des chocs en quelque sorte pour un médecin de tomber malade en plein de parcours, mais c'était un cadeau de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, il nous donne des petites leçons pour qu'on puisse retrouver creuser correctement notre chemin et trouver notre lumière, tous ces sens de notre existence dans un parcours. Et après, c'était un accident de travail pour vous dire, et c'est une révélation peut-être pour la première fois en plein public, c'était un accident de travail où j'ai pu être victime d'une section tendineuse en pleine opération.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'étais en pleine opération, j'étais interne à l'époque
OK.
au CHU, et en pleine opération, il y a eu un petit problème durant le bloc, et il y a eu une section tendineuse par un bistouri
Ah, Djerhti.
mes doigts. Oui, exactement.
Mais c'est pas une simple plaie
J'ai
en fait.
lésé.
C'est pas une simple
Non,
coupure.
c'est pas une simple plaie. Non, c'est pas une simple coupure. C'était une lésion d'un tendon, mais en plus, il y avait des soucis de contact avec le sang du malade.
Oh là là.
Et donc là, nous, les médecins, c'est vraiment ce qu'on redoute le plus.
Hein.
D'ailleurs, mes chers étudiants et mes chères personnes qui me connaissent de plus près, peut-être ils vont retrouver un peu le pourquoi de la chose, parce que j'insiste énormément actuellement auprès des médecins, futurs médecins, de faire attention aux premiers gestes. Donc à l'époque, sincèrement, c'était pour moi un choc émotionnel, un choc sur tous les plans. Mais j'ai compris que c'était ça qu'il fallait pour que j'arrête un petit moment. Et puis je pense qu'est-ce qu'il faut pour d'abord la santé, mais surtout la santé du soignant avant tout. Mais encore une fois, a posteriori, ça m'a permis de m'arrêter, de s'arrêter un petit, de penser c'est ce que je voulais faire réellement, continuer dans ce parcours que je n'ai pas choisi, malgré que je commençais à avoir du plaisir, à retrouver un peu tout ce qui est positif dans la chose, mais pourtant, je me suis dit non, il faut que je pense à ma santé, il faut que je pense à la santé des gens qui sont aux alentours de moi, il faut que je cherche une autre issue pour améliorer la santé plutôt que lutter contre les maladies.
Contre les... Alors, j'ai quand même une question. Parce qu'il y a
Oui.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu le même, la même histoire, en fait, devoir faire quelque chose pour les parents. Il y a des générations, entre guillemets, sacrifiées, pardon aux parents qui vont entendre ce mot, mais bon, maintenant on est en paix avec ça, parce qu'heureusement on en parle. Il y a aussi des changements de cap de vie, etc. Mais voilà. Pendant, et on sait combien les études de médecine sont difficiles, combien les concours sont compliqués, combien c'est long, etc. Quand on ne l'a pas choisi, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, comment, Majda, tu as pu tenir en fait? Comment tu faisais pour tenir?
Pour être très honnête avec toi, Yasmine, et d'ailleurs pour toutes les personnes qui le font pour les parents, je pense que cet amour envers les parents, il dépasse des fois l'amour pour soi, pour être honnête.
Oui.
On se dit, on peut tout faire pour satisfaire nos parents.
Parents, exactement. Dès que les parents louent l'idée, en fait, ils dépassent l'amour
Oui,
pour soi.
on peut faire des sacrifices au détriment de ce qu'on veut
De...
réellement.
Ouais.
Chose que je ne regrette pas actuellement, pour dire la vérité, je ne regrette pas. Au contraire, peut-être que si j'avais à remonter le temps, je ferais la même chose. Sauf qu'en cours de route, c'était pas évident. Il fallait assumer cette responsabilité double, c'est-à-dire de satisfaire les parents, mais aussi être à la hauteur des attentes. Les études médicales, ce n'est pas des études qui sont simples. Il y a le risque de l'échec, il est énorme. C'est des études qui sont longues. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'interactions qui se font en cours de route, d'apprentissage sur soi d'abord et sur la relation avec l'autre qui nécessite un double effort, peut-être un triple effort. Alors là, pour les parents qui souhaitent que leur enfant ressemble je dirais, à un profil qu'ils ont tracé, je leur dirais que ça doit être fait en concertation.
Alors, quand tu as annoncé que c'était pas le médecin traditionnel classique que tu allais devenir, mais un professionnel de la santé, ton papa, l'arhmo, kan baqi berrouh?
Oui, elle était toujours en vie. Alors, le secret, en fait, pour répondre à la question, le secret, c'est que j'ai une mère, qui est une source d'amour, un soutien infaillible. Donc, il y avait en fait l'équilibre. Il y avait ce soutien éternel, je peux dire, qui était là pour nous guider, nous frères et sœurs, et m'épauler dans les moments difficiles. Alors, après tout ce qui s'est passé, ben, le choix de la spécialité, c'était un choix en fait délibéré cette fois-ci, parce qu'après le parcours de formation initiale, etc., c'est moi qui avais choisi la spécialité. Donc, je peux dire que je me suis rattrapée un petit peu. Et alhamdoulillah, le choix de la spécialité, c'était pas imposé, c'était inattendu pour la majorité, parce qu'on s'attend à ce que le médecin, surtout lorsqu'il a un parcours qui est brillant, les internes de CHU, c'est toujours des personnes qui ont, dans le modèle ancien, ils ont eu un concours, ils ont pu décrocher des places, etc. On s'attendait à ce que je choisisse chirurgie ou une spécialité médicale qui est bien convoitée, etc. Mais moi, j'avais cherché justement quelle est la spécialité qui permettrait le mieux de comprendre la santé, d'aller au-delà de la maladie, d'éduquer les gens, de s'attarder sur les facteurs de risque qui sont les causes de maladie, sur les déterminants de santé qui peuvent déterminer l'état de santé. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est actuellement ma collègue, qui m'a un peu informée sur quel est le parcours attendu, quels sont les aboutissants de cette spécialité. Je commençais à creuser et je suis tombée amoureuse de la santé publique et plus précisément de la promotion de la santé. D'ailleurs, j'ai pu par la suite continuer le parcours avec des formations, notamment un master en promotion de la santé, un doctorat en promotion de la santé. Et maintenant, je peux dire que je parle promotion de la santé parce que pour moi, c'est le but ultime. Si on a des gens en bonne santé, ben on va réduire les maladies de façon naturelle.
Alors, Laila Majda, justement,
Oui.
qu'est-ce que tu vois en fait et qui t'énerve le plus par rapport à notre comportement au quotidien vis-à-vis de notre santé?
Beaucoup de choses. Énormément.
À
Énormément. Depuis le lever du matin jusqu'au coucher du soir, je peux dire qu'il y a beaucoup de comportements actuellement, énormément de comportements qui sont des comportements connus, facteurs de risque, et que les gens continuent à adopter. Notamment se coucher trop tard le soir et se lever à la dernière minute pour partir au boulot ou commencer sa journée. Déjà, ça met le corps en stress. Et le sommeil, c'est la moindre des choses. Le sommeil, c'est un remède et c'est la moindre des choses pour avoir une bonne santé. Donc, c'est à la fois quelque chose qui est accessible, mais à la fois quelque chose qui est devenu non respecté par beaucoup de personnes à cause du rythme de vie. Et on minimise un peu dans notre tête, on minimise l'apport de ce sommeil sur la santé. Alors, deuxième chose, c'est le petit déjeuner et la qualité de l'alimentation, petit déjeuner, le déjeuner et toute la journée. Donc, l'alimentation, encore une fois, on est devenu accro à tout ce qui est fast-food.
Bon, je rappelle juste qu'on n'est pas dans une émission de santé, on est bien dans Femme d'aujourd'hui. Ma femme d'aujourd'hui est une experte de santé publique et elle est aussi là pour, en parlant de ça, elle parle d'elle et elle parle de ce qui la motive le plus. Toi, Majda, qu'est-ce que tu prends au petit-déj?
Alors déjà, le petit-déj, moi, je le considère comme un élément de ce mode de vie qui est sain. Alors, pour prendre un petit-déj, il faut se réveiller un peu plus tôt que d'habitude pour permettre au corps de se préparer
À
à
l'accueillir.
prendre des aliments, à l'accueillir correctement. Donc moi, j'ai un petit rituel le matin, c'est que je me réveille très tôt. Je commence par m'hydrater d'abord, par faire bouger un peu. Je considère ça comme une activité physique pour ne pas imposer l'activité physique comme, je dirais, une activité qui répond à des normes. Donc bouger dans la cuisine, etc. Et le petit-déj, ben, la composition, c'est principalement des protéines. Donc moi, j'adore le bulgur. J'en ai toujours. Et donc, je commence toujours ma journée avec des œufs plats ou des œufs bouillis avec un thé sans sucre, bien évidemment, un café sans sucre. Et puis, un petit morceau de pain complet avec du fromage allégé. Donc, ça, c'est ça mon petit déjeuner au quotidien, pratiquement depuis quelques années.
Alors, autour de toi, Majda, justement, tu as dit j'ai des enfants, je suis mariée, enfin tu es mariée, tu as des enfants, tu as une famille, etc. Ne mange pas ça, ne fais pas si ou bien est-ce que c'est compliqué de passer à table avec toi?
Ça contamine aussi.
Ouais.
C'est vrai qu'au début, c'est au début, quand je dis au début, c'est que les personnes qui ne me connaissent pas, ils retrouvent que c'est astreignant quand même. Mais ça contamine, c'est-à-dire qu'on commence à manger des repas ensemble. Je parle des autres personnes, mais ma famille et ma petite famille, non, ils sont habitués. Mais quand je reçois par exemple des invités, etc., ben, ils sont obligés en quelque sorte de se conformer aux règles. Mais en général, je ne suis pas très restrictive dans mon alimentation. Dans mes enfants, c'est vrai que je veille énormément sur la qualité de l'alimentation avec la réduction de l'accès au fast-food et aux sucreries.
Ouais.
D'ailleurs, mes filles, j'en ai deux, ils se plaignent toujours pourquoi on n'a pas. On n'a pas un petit placard où on peut mettre nos sucreries à la
Yakbeda.
cachette. Je leur dis, comme ça doit être occasionnel et ça donne du
Occasionnel.
plaisir.
Ouais.
Quand c'est occasionnel, on retrouve du plaisir à manger un peu de sucreries ou des petites canalités de temps à l'autre. Mais malheureusement, si ça devient à la place des plats, ben c'est les plats qui deviennent occasionnels. C'est
Occasionnel.
l'alimentation saine qui devient occasionnelle.
Exactement. Justement, Lala Majda, toi, tu as
Oui.
deux filles. Toi, tu as suivi une carrière, une première partie d'une carrière pour ton papa, l'Arhmon, pour réaliser son rêve. Ensuite, tu l'as adapté pour pouvoir la vivre aussi. C'est ce qui fait que tu es passé de médecine à spécialiste de médecine de la santé, Il y a que c'est bien ça. Les mots sont corrects.
Santé publique.
Santé
oui,
publique,
on peut
exactement.
Dire ça.
tes filles, est-ce que tu les orientes aussi? Est-ce que tu les pousses vers des domaines en particulier? Ou bien quand on a été orienté soi-même, voire forcé pour ne pas utiliser le terme, on laisse complètement libre choix à nos enfants?
À vrai dire, moi, je suis contre l'obligation, mais pour l'orientation. Alors, l'orientation dans le sens où on ouvre des portes, on répond aux questions, on encourage les ambitions et on encourage les passions. C'est ce que j'essaie de faire actuellement avec mes filles, justement. Je vois des orientations vers tout ce qui est, par exemple, créative, tout ce qui est dessin, tout ce qui est poésie. Ben, j'essaie de pousser dans ce sens. Avec les ateliers, avec des rencontres, avec des conférences, mais pas pour dire ben voilà c'est ça ce que tu devrais faire par la suite. Parce que encore une fois, je pense que nous sommes différents, nous sommes des personnes qui sont différentes, et chacun a forcément des ingrédients qui sont présents. Il suffit de les cultiver dès le jeune âge. Et c'est important de croire en leur capacité à creuser leur chemin.
Mais est-ce que parfois tu as envie d'intervenir un peu plus, mais tu te dis non, je ne le fais pas parce que moi, on a trop intervenu pour moi ou dans moi, même si ce n'est pas correct?
Non, ce n'est pas le cas parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que, et je ne crois pas qu'ils ont intervenu ou le père, l'Ahmou, où la famille a intervenu, au moins je me dis que c'était mon destin. Avant tout, je crois que c'était mon destin. Les interventions familiales, elles étaient là comme sebeb, pas plus.
Oui.
C'était mon destin. Je pense que chacun, il aura sa place dans son destin et il va avoir un plus-value. Il suffit de trouver du sens et de comprendre le sens et de comprendre la leçon. Donc je ne suis pas dans la fusion avec mon histoire ancienne. J'essaie de garder les chemins parallèles. Chacun a son histoire et chacun il aura un avenir qui est différent avec des facteurs et des causes qui sont différentes.
C'est incroyable parce que il y a quelques jours aussi je recevais une autre grande dame et je lui posais une question dans ce sens et elle m'a dit non parce que c'était mon destin en fait. On a la puissance de résilience qui est magnifique, qui est un baume au cœur et un pansement pour tout ce qui a pu être compliqué. Laila Majda Sbani, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Awashirkum Buruka, Ramadan Mubarak, Bashmet Meniti, Inch'Allah. Idkhalu alik b'sihiha wa salama.
Merci beaucoup, Laila Yasmine. Et j'espère, Inch'Allah, fad nahar ou fad le mokanawal, Inch'Allah, la shahr mubarak, bien y koun shahr rahma, ou l'oufran, ou siha, le jami, le maghariba, ou jami, le muslimin, ou mouminin, sur l'alam koulou. Et Inch'Allah, nous chauffons le podcast très très réussi, encore plus réussi, avec des femmes exceptionnelles marocaines, comme vous d'ailleurs.
Rabbi khalik Laila Majda. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.